Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est aujourd'hui le 12 mars. Alors, nous sommes toujours dans le livre « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell. Et aujourd'hui, on va aborder le chapitre 7 qui s'appelle, dans le fond, « Le leadership de servitude ». Donc, c'est le cœur du leadership, en fait. Donc, quand j'étais plus petit, alors, ma conception du leadership a toujours été une conception de position. Un leader, c'est quelqu'un qui reçoit une position, un titre, et on doit obéir à cette personne-là. Faites juste penser à vos parents. Quand on est enfant, donc on doit obéir à nos parents, donc il doit obéir à l'adulte. Ensuite, quand j'ai commencé l'école, ben c'était la même chose. Donc, je devais écouter le professeur, puis ce que le professeur disait, donc je devais le faire. Même chose avec le directeur. Si j'allais dans le bureau du directeur, oh my God, c'était pas pour une bonne nouvelle. Alors, ça a toujours été cette conception-là. Ensuite, j'ai joint les cadets quand j'étais plus jeune, à l'âge de 14 ans, je pense que j'ai commencé. Et encore une fois, c'était cette notion-là. Donc, quand on est un nouveau cadet, par exemple, et on va nous présenter au caporal, au sergent, et là, quand on s'adresse à eux, il faut les vouvoyer. Souvent, il faut se mettre au garde-à-vous, par exemple, quand on va leur parler. Donc, toutes des notions comme ça, encore une fois, de position, de hiérarchie, vous comprenez? Ensuite, quand on s'adressait à des officiers, donc là, il fallait les saluer, fallait les vouvoyer encore une fois. Alors, il y a tout le temps cette notion, donc, de titre par rapport à toi, en fait. Donc, même si tu crées des liens avec eux, tu vas continuer à les vouvoyer, tu comprends? Donc, ça met une certaine distance et tout ça. Quand j'ai débuté donc dans l'enseignement, ben c'était un peu la même chose en fait. T'sais. Donc nos élèves devaient nous vouvoyer dans mon école. C'était encore une fois, t'sais, une position d'autorité face aux élèves et tout ça. Puis là, quand j'ai commencé Tupperware, c'est là que ça a changé ma perspective parce que dans mon MLM, on parlait donc de servant, de leadership, de servitude en fait. C'est là qu'on disait, ok, on est au service des gens en fait, un leader. Puis là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais entendu cette notion-là, en fait. Et il y a Bronnie Wise, qui, dans notre entreprise, c'est elle qui a mis le système, dans le fond, de démo à domicile sur pied, en fait. Donc, c'est une grande dame. On lui voue beaucoup de respect. Et elle a dit une phrase, dans le fond, qui a marqué son passage à Tupperware. Elle a dit, si on bâtit les gens, en fait, donc, si on développe les gens vont bâtir ton entreprise, vont développer l'entreprise. En fait. Donc, investissez dans les gens, puis les gens, c'est eux qui vont faire bâtir votre entreprise. Puis quand on y pense, c'est tellement vrai, en fait. Plus on va travailler avec développer le potentiel des gens, plus les gens vont développer leur entreprise, mais plus, par le fait même, ton entreprise va le faire. Okay? Donc, on disait, si tu veux réaliser tes rêves, dans le fond, aide les autres à réaliser leurs rêves et par le fait même, tes rêves vont se réaliser. Mais tout ça vient probablement de Zig Ziglar, qui était un auteur américain qui dit, dans le fond, si vous aidez les gens à avoir ce qu'ils veulent avoir, en fait, ok, donc ils vont vous aider à avoir ce que toi, tu veux avoir. Okay? Donc, c'est ça, dans le fond, le leadership de servitude. Alors aujourd'hui, on va vous parler donc de cette notion-là. Puis pour moi, c'était la première fois que j'entendais parler ça. Mais en fait, ça venait de John Maxwell souvent parce que on faisait des meetings de développement personnel et tout ça. Puis on abordait justement donc le leadership à travers les enseignements de John Maxwell. Puis c'est là que j'ai entendu vraiment le mot. Tu sais, donc il y avait les notions que j'ai entendues, donc les phrases de Bronnie Wise. Mais d'entendre vraiment que c'était l'essence, dans le fond, du principe, c'est vraiment avec John Maxwell qu'on a appris ça. Alors, au lieu, donc, d'aider, dans le fond, c'est que ça renverse notre conception du leadership. Vous comprenez qu'avant, on s'attend à ce que les gens fassent ce que le leader veut qu'ils fassent pour eux, ok? Ben là, c'est plutôt le contraire. Le leader va être au service des gens. C'est comme si on inversait donc la pyramide. Vous savez que la pyramide ou une hiérarchie dans une entreprise, donc vous allez avoir tous ceux qui travaillent, donc les travailleurs. Puis ensuite, vous allez voir les superviseurs, ok? En haut des superviseurs, donc il y a les, je sais pas moi, le direct, pas les directeurs, mais les les patrons, tiens, qu'on va appeler. Ensuite, il y a le directeur, les directeurs des finances, le directeur du matériel. Puis ensuite, tu vas avoir le vice-président, puis tu vas avoir après ça le président. OK? Tout ça, c'est une hiérarchie. Bien, c'est comme si on prenait cette hiérarchie-là puis on voulait l'inverser dans le fond. Donc, tous ceux qui sont au sommet de la pyramide sont rendus maintenant à pouvoir servir, dans le fond, les autres, à pouvoir les aider, donc, à devenir, donc, les meilleures personnes possibles. Donc, dans le fond, un leader au service des autres va aider les gens dans toutes les sphères de sa vie. Tu sais, il va les aider à devenir meilleurs dans leur famille. Ils vont les aider à devenir meilleurs dans leur travail. Ils vont les aider à devenir meilleurs dans leur communauté. Tu sais, comme quand on avait des cours, nous, à Tupperware, donc Maria prenait un moment pour parler des relations à la maison. Tu sais, elle disait que c'était important, donc la façon que tu parles à ton mari. Donc, si tu veux qu'il sorte les poubelles, OK? Si tu veux qu'il fasse les tâches, ben il faut que tu lui parles avec amour, OK? Et non pas « sors les poubelles! » Ça, ça marche pas. Okay? Elle nous parlait donc comment laver la vaisselle. Okay? Elle nous montrait que, donc tu comprends, ça allait au-delà de Tupperware. Donc on développe les gens donc dans toutes les sphères. À un même moment donné, elle disait comment se laver. Elle donnait un cours comment se laver. Bon, ça allait un peu loin là. Okay? Alors, ça développe les gens donc dans toutes les sphères de la vie en fait. Donc là, on va vous présenter donc cinq lignes directrices dans le fond qui vont vous aider à devenir donc davantage de meilleurs leaders de servitude au service des gens. Donc numéro un, il ne faut pas reposer sur son titre en fait. Vous savez, donc si je ne fais que reposer sur mon titre, donc je suis directeur, je suis une gérante. Alors, je peux pas me reposer sur ce titre-là ou sur cette position-là, en fait, parce que à chaque jour, je dois bâtir, dans le fond, la confiance avec les gens. OK? Donc, mon rôle en tant que directeur, c'est d'inspirer mon équipe à l'action. OK? Donc, je peux pas leur dire fais des ventes puis que moi, j'en fais pas. Je peux pas dire aux gens recrute si moi je ne recrute pas. Ok? Tu comprends que c'est quelque chose que je dois bâtir leur confiance et parce qu'ils me voient le faire par mon exemple, ils vont avoir envie de le faire en fait. Alors je dois gagner dans le fond leur respect à tous les jours de cette façon-là. Donc je sais Jean-Philippe, toi t'as un beau contre-exemple de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Exactement. Donc, ça remonte moi aussi au moment où est-ce que j'étais dans le programme des cadets. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai fait mon deuxième camp d'été. J'étais sur un camp d'été de musique. Et bien évidemment, il y a toute la notion de la hiérarchie. Et il y avait en fait l'adjudant-maître à ce moment-là qui était la personne responsable de nous faire la drill. Donc, les mouvements sur le terrain de parade. Et je vais toujours me souvenir, en fait, dès le départ, moi, avoir vu son inconstance. Donc, dans sa manière d'agir, dans sa manière de péter une coche, de péter une note, de se mettre à crier parce que ça fonctionnait pas comme elle le voulait à ce moment-là. Il faisait chaud, les jeunes tombaient sur le terrain de parade. Il faut savoir, c'est on a des bottes noires sur un terrain noir à tenir des instruments au gros soleil à 35 degrés Celsius. Et ça m'avait marqué de voir à quel point, déjà dès le départ, moi, je l'avais catégorisé comme étant quelqu'un d'incompétent. Plus tard, alors que j'étais, je crois, en fait, cadet cadre, elle était responsable, en fait, de la section des loisirs et de l'aventurier. Donc, déjà, quand tu amènes des musiciens dans le bois, tu le sais que c'est pas leur élément. Et elle, la seule manière qu'elle avait eue d'essayer d'avoir notre attention, c'est de se mettre à crier après nous dans le bois, à prendre son grade par les mains et dire « J'ai un grade, vous devez m'écouter, j'ai des compétences pour ça, j'ai été reconnue. » Et dès le départ, ça venait rajouter au fait que je me disais « Si la seule manière que tu as de pouvoir obtenir l'attention de gens, c'est en relayant sur ton grade, malheureusement, c'est sûr et certain que ça ne peut pas fonctionner. » Et lorsque je suis devenu officier, elle était encore là. Donc, malheureusement, malgré son incompétence, OK, elle était toujours là. Et je me souviens, elle était responsable donc du mess. Le mess, c'est notre endroit où est-ce qu'on peut reposer avec les autres officiers. C'est comme notre endroit off, là. Et c'était elle qui était responsable du mess et c'était elle qui était responsable de la discipline. Et elle est rentrée un soir habillée, et là je vais utiliser, excusez-moi l'expression, habillée en salope, OK? Donc, et elle est rentrée dans le mess. En plus, elle était saoule, elle avait de la misère à marcher. Et le lendemain, c'est elle qui est venue nous faire un speech sur la prestance à l'intérieur du mess et la manière dont on devait se comporter. Donc, pour moi, cette personne-là avait perdu entière crédibilité. Peu importe ce qu'elle faisait, pour moi, elle était catégorisée et ce n'est plus quelqu'un qui pouvait avoir mon respect malgré le fait qu'elle avait un grade. Donc, des fois, on nous dit, elle a un grade, il faut qu'elle ait un respect. Oui, peut-être que tu l'as eu parce que tu as suivi des cours, mais tu n'agis pas comme une personne qui mérite le respect basé sur ce grade-là.
Alors oui, quel contre-exemple, Jean-Philippe. Puis j'avais pas compris que le lendemain, elle allait faire un speech sur comment se tenir quand t'es saoul sur tes talons. Voilà. OK, alors, beau contre-exemple en fait. OK, numéro 2, choisir de croire dans les gens et dans leur potentiel en fait. Donc, le plus je vais croire dans les gens, de plus je vais croire, de plus je vais croire dans les gens, plus je vais avoir envie de les servir en fait. Alors, c'est le fun de voir donc des nouvelles personnes arriver dans notre équipe puis de pouvoir investir donc du temps dans elles en fait. Mais pour pouvoir investir du temps en elles, il faut qu'elles montrent, dans le fond, certaines choses. Donc, elles doivent montrer, par exemple, leur engagement. Donc, quelqu'un qui va être là religieusement au meeting, en fait, mais tu vas avoir envie d'investir en elle pour pouvoir l'aider à réussir. Mais ça prend, tu sais, c'est comme une danse. En fait, il faut que la personne en donne un peu, en fait. Puis, tiens, je vais prendre l'exemple de Mariki. Je me rappelle que, dès le début, elle n'avait pas nécessairement c'est pas quelqu'un qui est arrivé puis tu dis « Oh my God, elle va être directrice ». On ne sait jamais les gens, en fait, puis avec leur bagage, en fait, mais on fait confiance aux gens, en fait. On travaille avec les gens, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, en fait. Donc, on croit dans tous les gens. Puis là, je me rappelle, la première fois, j'ai dit « Hey, on va faire des appels au bureau. Amène toute ta liste de contacts. » Elle dit « OK ». Elle arrive au bureau avec ses 5 noms à appeler. Elle fait ses 5 appels. Bon, j'espère qu'elle écoute là, puis qu'elle trouve ça drôle. Là. Je veux rire un peu de la situation. Mais vous comprenez qu'on est parti de là, en fait. Puis après ça, donc on en a fait 10, puis on en a fait 15. Puis à un moment donné, elle était tellement bonne, c'est elle qui donnait les entraînements aux gens, qui montrait comment le faire. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait donc toute montée donc ces échelons-là, en fait. Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'elle était engagée, elle voulait apprendre, elle avait cette soif d'apprendre-là. Alors, quand on croit dans les gens, en fait, dans leur potentiel, bien, tout est réalisable, en fait. Puis Jean-Philippe, tu as encore un bel exemple à nous illustrer avec ceci.
Oui, en fait, pour ceux qui connaissent ma directrice, Julie Corriveau, donc Julie, on s'est mis à se parler en avril 2021, un peu juste avant qu'on ait là, la grande transition de notre système là dans notre système pour soumettre nos commandes. Et j'avais dit à Julie, on va attendre en fait au mois de mai pour pouvoir effectuer ton inscription, tel jour le système va ouvrir. Puis entre-temps, j'ai eu la chance de l'inviter à une soirée d'invités, j'ai eu la chance de discuter avec elle, savoir un peu plus qu'est-ce qu'elle voulait. Elle était en congé de maternité, donc ça nous a permis j'ai pu découvrir le type de personne qu'elle était. Elle était déjà entrepreneur, elle cherchait, tu sais, à avoir un revenu d'appoint, à s'occuper durant son congé de maternité. Et donc, durant les 2 premières semaines, Julie, elle posait beaucoup de questions. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir, tu sais, l'orienter sur les bonnes ressources, au cours, la coacher. Puis je lui ai dit, là, il faut que tu le dises aux gens que maintenant, tu sais, tu fais Top Aware. Donc, il faut que tu les contactes, il faut que tu les invites à rejoindre ton groupe, ta communauté. Et étant donné que, là, tout d'un coup, ses comportements sur les réseaux sociaux, sur Facebook, étaient plus ceux qu'elle faisait avant. 2 semaines après qu'elle ait commencé, le compte Facebook de Julie a été fermé. Et, tu sais, il y a des gens qui sont capables de demander une réouverture, puis finalement, ils retrouvent leur compte après quelques jours. Julie, elle n'a jamais été capable de retrouver son compte principal. Donc, il a été complètement fermé, ce qui fait en sorte qu'elle a dû recommencer à 000, se refaire toutes ses amies, retrouver tous ses contacts. Elle avait ses contacts, en fait, de son travail, les contacts, en fait, de ses immeubles à revenus. Donc, moi, j'ai dit à Julie, je dis, on a deux options. Soit tu décides d'arrêter et c'est la fin, ou tu décides, en fait, de continuer. Donc, moi, j'ai dit, moi, je crois que tu es capable de le faire. Je vois la drive que tu as. Et Julie, aujourd'hui en 2024, 3 ans plus tard, a une business en succès, une business qu'elle a commencé en repartant à zéro. On peut dire qu'elle a réellement vécu, en fait, ce qu'une conseillère doit vivre. Donc, c'est ce qui lui a permis, en fait, d'être aujourd'hui ce qu'elle est parce qu'elle a utilisé sa résilience, elle a utilisé ça, donc, pour pouvoir progresser. Puis moi, j'ai dit, je sais que tu es capable. Je voyais cette drive-là. Et quand on le voit en les gens, puis qu'on prend juste le temps de leur dire, de les orienter, de les ramener en confiance et de les faire témoigner sur les épreuves qu'ils ont eues, bien, on voit le potentiel.
Et voilà, c'est ça. Donc, bel exemple. Bravo à Julie! OK, numéro 3. On essaie de voir les choses de la perspective des autres, en fait. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre 6, on a parlé, donc il disait, mettre une nouvelle paire de souliers, en fait. Donc, ça nous permet de pouvoir voir ce que les autres pensent, ce que les autres voient, en fait. Alors, quand on se met dans la peau des autres, il y a plein de citations, tu sais, vous savez, là, marche dans un mille dans les souliers de l'autre, voir la vie avec les lunettes des autres. Donc, il y en a plein de choses qui nous disent, dans le fond, que quand on regarde les choses dans la perspective de l'autre, bien, ça nous permet de mieux comprendre. Comment on le fait? Bien, on pose beaucoup de questions pour comprendre, dans le fond, son point de vue. Donc, des questions qui vont nous permettre de comprendre donc ce qu'elle vit, ce qu'elle pense de cette façon-là. Puis, il y a le président Harry Truman, donc, qui avait dit que quand on met une autre paire de souliers, en fait, habituellement, 9 fois sur 10, les gens font les bons choix, en fait. Ils font ce que nous-mêmes, on aurait fait, en fait. Jean-Philippe, tu as aussi un bel exemple pour illustrer ce point.
Oui, en fait, moi, la semaine passée, j'ai tenu mes rencontres d'avancement qu'on appelle. Donc, ces rencontres-là, c'est une forme de mentorat, c'est une forme de coaching dans le but de pouvoir accompagner, oui, les bonnes personnes. Donc, de travailler avec notre 20-80, c'est-à-dire des gens qui brillent par leurs résultats, mais aussi par leur action, par leur engagement et leur détermination. Donc, moi, ce meeting-là, un premier objectif, c'était de pouvoir leur partager les nouveautés, mais de leur partager aussi ma vision. Et par la suite, je leur laisse complètement la place. Un, je veux les mettre en confiance. Donc, je veux qu'ils gardent la perspective de ce qu'ils font, c'est bien. Donc, d'être capable d'identifier quelle action en ce moment leur donne des résultats pour leur dire, ben continue, tu es dans la bonne voie. Mais aussi, j'ai pris le temps de leur demander qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui les fâchait en ce moment, quels étaient leurs objectifs et les résultats qu'ils voulaient atteindre, mais qu'en ce moment, ils ne sont pas capables d'y arriver. Donc, parce que j'ai débuté avec leur force, maintenant, en leur demandant ce sur quoi ils voulaient travailler, ça me permettait de pouvoir les aider à les orienter. Donc, de comprendre où est-ce que là leur perspective déviait et être capable de le connecter avec leur force pour leur permettre d'aller dans la bonne direction et de dire, OK, ça marche peut-être pas comme je veux en ce moment, il y a quelque chose qui va bien et ils étaient réceptifs sur les recommandations que je pouvais aussi leur donner à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment dans ces moments-là, quand on bâtit sur ce qu'ils sont bons, puis ce qu'on les aide à améliorer, que ça nous permet de voir c'est quoi leur perspective, puis comment est-ce qu'on peut les amener au prochain niveau.
Exactement. Donc, c'est vraiment la façon qu'on doit travailler avec les gens. Le point numéro 4, on travaille à créer un environnement de travail où les gens vont s'encourager. Donc, dans les diamants, c'est vraiment ceci. En fait, donc, on travaille les uns avec les autres et on est fiers du succès de nos collègues, en fait. Puis, on est fiers de voir les nouvelles émerger, en fait. Donc, quand on voit quelqu'un qui, par exemple, qui est reconnu dans les tableaux, puis là, tu sais, donc, on peut lui envoyer un petit message pour lui dire « Hey, félicitations, je t'ai vu, c'est beau, continue ton beau travail. » Dans notre équipe, donc, il y a cette communion-là aussi. Donc, les gens veulent le succès des autres et c'est le fun parce que on sent que vraiment le succès des uns, c'est le succès des autres, en fait. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée un sentiment de loyauté donc parmi les gens parce que les gens donc s'entraide. Par exemple, hier, il y avait un cours sur les médias sociaux, sur l'intelligence artificielle, OK? Donc, toutes les possibilités. Bien, ça, c'est Marie-Pierre, avec son savoir, qui nous aide, donc, qui va aider toute la communauté. Donc, Marie-Pierre ne garde pas ça pour elle. Donc, elle le partage à tout le monde. Tandis que, par exemple, un mardi par mois, donc, je vais avoir Annie Marchand, Stéphanie Sigouin qui vont travailler sur développer le leadership. Moi, je suis chanceux parce que à chaque nouveau programme qu'on a, donc pour nos nouvelles abonnés, Jean-Philippe prend le temps de préparer une vidéo explicative, donc un récapitulatif donc du programme, puis qu'il le décortique bien. On va se servir de ses excellentes qualités de communicateur, en fait, puis on va les mettre en valeur de cette façon-là. Donc, vous voyez, on est une équipe, on travaille tous ensemble, on veut le succès des uns des autres, puis les gens donc vont s'entraider les uns les autres pour le bien commun donc de cette communauté. Jean-Philippe, tu as aussi un exemple à nous démontrer.
Oui, en fait, on reproduit un peu cette formule-là dans nos équipes aussi, avec notre Messenger. Donc, beaucoup de mes collègues directeurs, directrices ont leur propre Messenger. Puis bien évidemment, au départ, l'objectif, c'est de transmettre de l'information. Mais l'ultime but, qu'est-ce que c'est? C'est de créer cette synergie-là, donc dans ce groupe-là. Donc oui, au départ, c'est le travail, en fait, du leader, donc du directeur, directrice, de répondre aux commentaires. Mais par toutes les autres actions qu'il fait, c'est-à-dire, comme on l'a vu au point précédent, de travailler avec à développer des nouveaux leaders, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que les gens dans le groupe Messenger puissent s'auto-répondre entre eux. Et spécifiquement, quand on ajoute des nouveaux membres. Parce qu'on le sait, notre travail est en quelque sorte répétitif. On a des nouveaux qui commencent toujours à zéro. Donc, tout est à apprendre. Donc, oui, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Mais lorsque les nouveaux sentent qu'ils ont cette possibilité-là de poser des questions sans se faire juger, alors ça vient vraiment créer une communauté d'encouragement et une communauté de soutien. Ce qui fait en sorte qu'une personne qui débute, qui se fait répondre à ses questions, qui s'est sentie en sécurité, va devenir plus tard la personne qui va répondre à un nouveau. Et c'est lorsque tout le monde se sent en charge du groupe et non uniquement du leader qu'on est capable de créer cette communauté-là d'encouragement.
Exactement. Donc, cette communauté-là, donc, va pouvoir justement se soutenir parce qu'on l'a bâti, donc cette belle communauté. Numéro 5, on mesure son succès par combien de valeur on ajoute aux autres, en fait. Donc, quand on ajoute de la valeur aux autres, c'est qu'on les aide, dans le fond, à développer leur potentiel, dans le fond. On va les mettre, faire briller, par exemple, au bon endroit. Donc, quand, justement, on va utiliser Jean-Philippe, donc ses qualités de communicateur, on va le placer dans une situation où il va briller, bien, on ajoute de la valeur à Jean-Philippe, en fait. Puis, nous, bien, il nous aide en nous expliquant puis en décortiquant bien, donc, les programmes. Donc, quand tu travailles, dans le fond, à développer ton monde de cette façon-là, alors tu vas les aider, dans le fond, à devenir une meilleure personne, en fait. Donc, dans toutes les sphères de sa vie, on le dit, donc en tant qu'époux, en tant que père de famille, en tant que dans son travail, dans sa communauté. Donc, le succès devient extraordinaire. Quand on aide les gens, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est en train de, au lieu de les de nous monter l'échelle du succès, c'est qu'on est en train de bâtir pour eux cette échelle-là, qu'eux peuvent grimper dans leur échelle, puis que par la suite, ils savent comment bâtir une échelle, donc eux aussi vont bâtir une échelle pour les gens, donc de leur propre équipe, pour pouvoir les aider, donc à s'élever vers le haut, en fait. Puis vous savez, Jean-Philippe, je sais que tu as un exemple aussi pour ce point-ci.
Oui, en fait, on est capable de, tu sais, ces moments-là, quand on se met à arriver à un succès d'équipe, c'est là qu'il faut vraiment se questionner et se souvenir, OK, comment est-ce qu'on l'a bâti? Et moi, en fait, c'est quand je me suis qualifié pour la première fois, après 9 tentatives, pour la première phase du programme WOW, c'est-à-dire de me qualifier pour le voyage, le 4 300 $ de crédit. Et je me souviens donc des derniers mois, parce que les premiers, tu bâtis, tu dis, tant et aussi longtemps que je suis arrivé au troisième ou au quatrième mois, on va attendre avant de commencer, en fait, là, à célébrer. Et je me souviens que les deux derniers mois ont réellement été un élément fondateur parce que mes actions étaient orientées vers les gens, étaient orientées à comment est-ce qu'en ce moment, on peut faire de l'argent? Comment est-ce qu'en ce moment, tu peux faire de l'argent? Puis, quelles sont les actions que tu dois faire? Donc, tout d'un coup, notre focus change sur il faut que je récolte, il faut que je ramasse, mais plus sur on vient amener notre focus sur les gens dans le but de les aider à se sentir compétents, à se sentir autonomes, puis à se sentir en succès. Puis, c'est là que ça se met à se dupliquer et que finalement, les résultats nous donnent en fait des reconnaissances qu'on ne peut pas atteindre tout seul.
Et voilà, c'est ça. Donc, cet exemple-là illustre bien donc, le succès de toute ta belle organisation. OK. Alors, pour terminer, dans le fond, vous savez qu'il y a plusieurs leaders qui ont mis donc se sont mis au service des gens, en fait. On aurait pu parler de George Washington. On aurait pu parler de Gandhi. On aurait pu parler de... mon Dieu, j'oublie son nom. On aurait pu parler de Nelson Mandela. On aurait pu parler... Donc, Nelson Mandela a dit une belle phrase. Je vais vous la citer. Il dit « Je me tiens devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un noble serviteur, en fait, au service, donc, de vous, mon peuple, en fait. » Alors, c'est une belle phrase, dans le fond, qui illustre, donc, sa façon de voir le leadership, donc, de servitude. Alors, vous savez que, de cette façon-là, on devient... dans le fond, des modèles, en fait. Alors, quand on travaille donc de cette façon-ci, donc à être au service des gens, on devient des modèles, on touche la vie donc des gens, on va la changer profondément et vous avez aidé les gens, dans le fond, à devenir autonomes. Vous allez aider les gens à créer de la prospérité pour cette génération-là, mais pour les futures générations. C'est comme on leur montre comment pêcher le poisson plutôt que de leur donner du poisson à manger. Donc, on va leur aider à pêcher le poisson. Et en terminant, donc, il parlait que il y avait un auteur, je me rappelle pas, qui disait que dans le fond, le leadership de servitude, c'est le leadership présentement qui va transformer le monde, en fait. Puis comment il peut transformer le monde? Donc, les leaders de servitude ont 5, dans le fond, choses qu'ils doivent faire. Alors, je vous les nomme. Alors, la première chose, ils doivent écouter sans jugement. Donc, écouter sans jugement fait que tu es une personne donc accueillante et qui peut aider les autres. Numéro 2, donc, en étant authentique, en construisant donc une communauté, en partageant le pouvoir avec ton monde. Alors, ne pas... se mettre sur sa position, en fait, sur son titre, s'appuyer sur son titre et en développant les gens, en fait. Donc, c'est vraiment les principes donc du leadership de servitude. Donc, aujourd'hui, on a débuté donc l'amorce de ce chapitre-là. La semaine prochaine, on va vous parler donc des questions pour vous aider justement à développer donc ce leadership de servitude. Alors, pour ma part, je vous retrouve lundi avec Jean-Philippe. Mais demain, il y aura le podcast Hello Fears avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver lundi prochain. Monique! Alors,